bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Comme promis, Theresa May s'apprête à démissionner ce vendredi. La première ministre britannique va donc lâcher le dossier du Brexit qui n'est toujours pas bouclé. Encore faut-il lui trouver un successeur. Ce n'est pas chose rapide, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, un représentant de l'Ifremer nous expliquera pourquoi il y a tant de plastique en mer Méditerranée. Ce matin, WWF donne des chiffres alarmants. Et puis, l'ONU s'inquiète de la situation au Mali. Nous y ferons un point dans ce journal. C'est donc aujourd'hui que Theresa May démissionne officiellement. La première ministre britannique enverra pour cela une lettre au président du comité 1922, l'organe régulateur du parti conservateur en Grande-Bretagne. En pratique cependant, rien ne change car il faut encore désigner le successeur de la première ministre. Le processus de désignation pourrait prendre 3 ou 4 semaines, peut-être même plus, Antoine Gignot.
Le départ de Theresa May, c'est un peu comme le Brexit. La première ministre annonce qu'elle quitte le gouvernement, mais dans les faits, personne ne connaît la date à laquelle elle va s'en aller. Pour quitter Downing Street, il lui faut aller voir la reine avec le nom de son successeur. La liste des candidats sera connue mardi matin, mais ils sont déjà plus d'une dizaine à vouloir prendre sa place. De la plus eurosceptique, Esther McVie, qui réclame une sortie immédiate de l'Union européenne, au plus pro-européen, Sam Gyimah, qui demande un second référendum. Au milieu, plusieurs anciens ministres, comme Boris Johnson, et 3 membres actuels du gouvernement espèrent tirer leur épingle du jeu. Pour avoir le droit de se lancer dans la course, ils doivent être soutenus par 8 députés minimum. Les parlementaires votent ensuite à plusieurs reprises. Ils éliminent à chaque tour le candidat qui recueille le moins de voix. Et ce n'est que lorsqu'il en reste 2 que les militants, à leur tour, sont autorisés à donner leur avis. Le processus est long et complexe. Le nom du prochain Premier ministre sera probablement connu autour du 20 juillet, au moment où les députés sont censés partir en vacances.
En Grande-Bretagne, toujours, le parti du Brexit de Nigel Farage s'incline face au parti travailliste après des législatives partielles dans l'est du pays. C'est un revers pour le parti du Brexit, fondé il y a quelques mois et arrivé largement en tête au scrutin européen fin mai. Il échoue donc à remporter son premier siège au Parlement britannique. La Méditerranée noyée sous les déchets de plastique, c'est ce que nous dit un rapport alarmant du WWF publié ce matin. Il fait état de la pollution en plastique et analyse les responsabilité des 22 pays en mer Méditerranée, autour de la mer. 600 000 tonnes de plastique seraient ainsi rejetées chaque année et la France arriverait, selon l'association, en tête des plus gros pollueurs. Ces rejets proviennent à 79% des activités côtières et maritimes. Cela n'étonne pas tellement François Galgani. Il est directeur de recherche au bureau de l'Ifremer à Bastia.
Alors en fait, on a des chiffres, nous, qui sont de l'ordre de à peu près 500 tonnes par jour pour la Méditerranée. Et au-delà, et dans des évaluations les plus importantes, on peut même monter jusqu'à 700 tonnes, ce qui est considérable. Et donc, les chiffres qui sont donnés par le WWF ne nous étonnent pas vraiment. Oui.
Plusieurs sources de ces déchets plastiques.
Alors en fait, si vous voulez, la Méditerranée, elle a une situation très particulière. D'abord, c'est un bassin fermé, donc elle garde ses déchets. Il n'y a pas d'export. Il y a 30% du trafic mondial qui passe par la Méditerranée entre Gibraltar et Suez. Et donc, c'est important parce que c'est une source de déchets non négligeables. Puis après, il y a effectivement les activités côtières. Donc d'abord, les grandes villes, il y en a beaucoup, hein, avec des villes très très grandes comme Alexandrie, ou bien des apports de villes pas très loin de la côte, comme le Caire par exemple. Et puis, on a également donc, le tourisme, qui est c'est la première destination dans le monde, hein, la première destination touristique. Et donc forcément, il y a tout un ensemble d'activités qui génèrent des déchets et donc des plastiques associés.
Des propos recueillis par Maxime Beckmer de France Bleu, fréquente Samora pour France Culture. L'Assemblée nationale a voté hier soir la possibilité d'un assouplissement par les départements et par les maires de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Un vote à main levée qui modifie donc la limitation impopulaire, considérée comme l'un des détonateurs de la crise des gilets jaunes. Là, il s'agit de limiter les dommages engendrés par les trottinettes en libre-service qui fleurissent dans les grandes villes et surtout à Paris. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, veut interdire les stationnements de trottinettes sur les trottoirs. Cela passera par un arrêté préfectoral. Paris compte aujourd'hui 12 opérateurs qui ont mis en circulation plus de 20 000 trottinettes électriques. Le site des impôts a-t-il subi une attaque informatique en début de semaine? La question se pose après la connexion quasi simultanée lundi soir de 3 millions d'utilisateurs sur le site pour déclarer les impôts. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, avait accordé un délai supplémentaire de 48 heures, délai qui s'est terminé cette nuit. Et une double enquête a été ouverte, Grégoire Le Callot.
C'est la procédure en cas de suspicion d'incident de sécurité. Deux enquêtes parallèles ont été ouvertes, l'une interne au ministère des Finances et l'autre externe confiée à l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Selon une source proche de Bercy, des adresses IP suspectes venues de l'étranger ont été repérées dans le pic de connexion qui s'est produit sur le site impots.gouv.fr, laissant planer l'hypothèse d'une attaque de pirates informatiques. Cette attaque est-elle avérée? Si oui, quel rôle a-t-elle joué dans le blocage du site? La réponse a-t-elle été satisfaisante? Autant de questions auxquelles devront répondre ces enquêtes. Autres hypothèses évoquées pour expliquer cette vague, le week-end de pont ensoleillé qui aurait incité les derniers contribuables à repousser encore leurs déclarations et une rumeur lundi sur les réseaux sociaux laissant croire qu'il s'agissait du dernier jour pour l'affaire alors qu'en fait il restait encore 24 heures.
Radio France a prévu de supprimer entre 270 et 390 postes, tous métiers confondus, sur les trois prochaines années. Cela s'inscrit dans le plan d'économie de 60 millions d'euros prévu par la direction de Radio France. Les syndicats refusent pour le moment de signer tout compromis. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer d'ici la fin du mois sur la prolongation ou non du mandat de la MINUSMA au Mali et de ses 15 000 casques bleus déployés sur le terrain. Une présence internationale alors que le secrétaire général des Nations Unies affirme qu'il existe un fort risque d'atrocité à venir au Mali. La violence y est en effet quotidienne, Valérie Crova.
Le diagnostic que pose Antonio Guterres sur le Mali n'est pas exagéré. Le secrétaire général de l'ONU craint un risque d'escalade dans un pays livré à une multitude de groupes d'autodéfense. Ces milices se substituent à un État défaillant, incapable d'endiguer ce déchaînement de violence qui a atteint son paroxysme avec le massacre de Gossagou. Qu'elle soit l'œuvre de groupes djihadistes ou le fruit de règlements de compte entre Peul et Dogon, ces violences se poursuivent. Yvan Guichawa est maître de conférence à la Bruxelles School of International Studies.
Il y a eu des exécutions sommaires, des raids commis sur des villageois, des enlèvements de personnes qui sont souvent d'ailleurs filmés. Un tel soupçonné d'être complice des djihadistes se fait embarquer par des chasseurs traditionnels. Ces épisodes-là se répètent quasi quotidiennement. Aujourd'hui, le ciblage est tel que il ne semble pas du tout scandaleux de parler de logique d'épuration ethnique.
Face à la dégradation de la situation sécuritaire, Antonio Guterres plaide pour une prolongation de la mission de la MINUSMA. Il lui faudra convaincre les États-Unis qui voudraient la réduire. Le secrétaire général des Nations Unies milite quant à lui pour son renforcement dans le centre du Mali, là où les risques d'exaction sont les plus importants.
L'Allemagne juge à partir d'aujourd'hui deux djihadistes. C'est un procès inédit dans le pays. Est accusé un couple qui préparait une bombe biologique et avait prêté allégeance au groupe État islamique. Ce couple risque jusqu'à 15 ans de prison. Le Forum économique de Saint-Pétersbourg s'est ouvert hier en Russie, en présence notamment du numéro 1 chinois, Xi Jinping. Un forum marqué aussi et surtout par un feuilleton judiciaire qui secoue depuis 4 mois maintenant le monde des investisseurs étrangers, notamment français, en Russie. L'un des dirigeants français du fonds d'investissement Bering Vostok est emprisonné et poursuivi en Russie pour une fraude de 33 millions d'euros. Il clame son innocence et cela empoisonne les relations entre la France et la Russie, Claude Bruyot.
Depuis le mois de février et le début de l'affaire Bering-Vostok, la Russie aurait perdu 40 milliards de capitaux d'investissement. L'emprisonnement et les poursuites pour fraude du tandem américano-français, pourtant réputé à la tête de ce fonds d'investissement, seraient à l'origine de ces pertes. Mais si l'Américain Michael Calvi, que Vladimir Poutine appelle par son prénom, est sorti de prison, le Français Philippe Delpal, qui clame en vain son innocence, demeure lui détenu. Dans une affaire présentée par les uns comme un différend commercial entre actionnaires et par les autres comme une fraude à grande échelle, c'est aujourd'hui l'irrationnel qui semble commander. Un peu comme si les Russes reprochaient aux Français d'avoir discrédité leur marché en clamant trop fort l'innocence de Philippe Delpal. Alors même pourtant que Vladimir Poutine en personne, il y a deux jours encore, souhaitait que l'affaire se termine bien, à condition, avait-il dit, de respecter la loi russe. Et c'est là où tout se bloque, dans le système judiciaire ici, difficile de revenir en arrière sans se désavouer, car tout commence par la présomption de culpabilité.
Le temps sera agité, pluvieux et venteux ce vendredi avec 8 départements du Grand Ouest en vigilance orange jusqu'en fin de journée. Une tempête nommée Miguel arrive, elle touchera tout le pays dans l'après-midi. Il pleuvra donc pour le début du mondial de football féminin. Ce soir, il est organisé en France. Ce matin, comptez 13 degrés à Brest, 16 à Bordeaux, 18 degrés à Lille, Paris, 20 degrés ce matin à Besançon, 23 à Lyon, 25 déjà à Marseille ainsi que sur la Corse.